Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 8 février, bonne journée. Bienvenue au 98,5 avec un ciel dégagé, température confortable. Ce matin, d'ailleurs, on prévoit un maximum de moins 2 avec une alternance de soleil et de nuages. Ça va peut-être se couvrir un peu en matinée, mais il y aura quand même des périodes un peu plus lumineuses aujourd'hui. Pour ce qui est de la soirée et de la nuit, encore là, partiellement nuageux, moins 9. Demain, mercredi, moins 1, avec beaucoup de soleil. Jeudi, on prévoit de la pluie. Vraiment de la pluie, là, c'est plus 3 degrés. Et on termine vendredi avec un ciel nuageux, 1 degré. Donc, pas vraiment de neige cette semaine. Des températures très confortables, il n'y a pas de grande période de froid. Le froid, cependant, qui devrait revenir possiblement samedi soir, dans la nuit, puis un petit peu durant la fin de semaine également. Bon, conférence de presse, 13h aujourd'hui, de François Legault, de Christian Dubé, du Dr Boileau de la Santé publique. Alors, c'est le plan de match qu'on attend. Est-ce que le plan sera détaillé? Ce que je veux dire par là, est-ce qu'on va avoir un calendrier, un vrai, ou quelques mesures qui s'ajoutent à ce qu'on connaît déjà? Alors, si on se fie aux fuites, et vous remarquerez que les fuites sont assez nombreuses dans les heures qui précèdent les annonces officielles, officiellement, donc, on prévoit qu'à partir de la fin de semaine, à partir de samedi, parce que c'est le Super Bowl, vous allez pouvoir passer à 3 bulles, resto, maison et un maximum de 10 personnes. Donc, c'est quand même un changement important là, que le gouvernement a décidé de permettre. Aussi, il y a déjà des mesures qui avaient été annoncées. Pensons lundi à l'ouverture des gyms, des spas, retour des spectateurs dans les gradins et également la fameuse reprise des matchs, là. Pas juste des entraînements, mais des matchs, autant pour les jeunes que pour les adultes. Ils ont démêlé leur flûte là, parce qu'il y avait... C'était assez particulier de le permettre à des adultes, pas aux plus jeunes. Et les bars, ça irait au 28 février prochain. Tu dis parfait. Voilà qui est très bien. Là, la question, c'est OK, mais pour la suite des choses, y arrive quoi? Et là, j'ai pas d'informations. On va attendre cet après-midi. Je vous donne l'exemple du débat sur le port du masque, sur le passeport vaccinal, sur le retour au travail, donc les procédures concernant le rapatriement des forces vives au centre-ville et aussi pour ce qui est des événements. Puis vous l'avez entendu, le maire de Québec, la mairesse de Montréal, ce matin, les grands hôtels font une conférence de presse, à peu près tous les groupes disent « on veut le savoir parce qu'on veut pouvoir réserver, ou en tout cas obtenir des réservations. On veut que la Ligue nationale tienne son repêchage au début juillet. » Prévisibilité, c'est le mot clé. Le problème, c'est que depuis quelque temps, le gouvernement saupoudre les mesures, en annonce un petit peu à la fois, en disant « bon, ben dans deux semaines, ça va être ça, puis dans deux autres semaines, ça va être ça. » Là, le Super Bowl est devenu la référence. Parfait, en fin de semaine, vous allez pouvoir vous regrouper un peu plus. Mais est-ce que l'autre étape va être attachée? On comprend que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il n'y a pas de mesures, en fait, il y en a, mais moins, obligatoires, puis qu'on est plus dans la forte recommandation. OK, on vous permet 10, vous n'êtes pas obligé, c'est pas nécessaire, faites-le pas, mais on laisse aller un peu. Puis tout ça arrive dans un contexte où je pense que Dr Weiss a assez bien résumé hier matin la chose, là, en disant on arrive à un certain contrôle de ce qui se passe au niveau hospitalier. La population au Québec est fortement vaccinée. Les gens les plus vulnérables, pour la plupart, ont obtenu leur troisième dose. Bon, il reste des zones à Montréal, entre autres, où la vaccination est peut-être pas parfaite, mais quand même, on sent une amélioration de la situation. Puis les gens veulent retrouver cette liberté. Je me permets de vous dire également qu'on va parler avec Dr Mylène Drouin. Et le portrait de Montréal s'est grandement amélioré. Quand vous combinez tous ces facteurs-là, puis vous dites, là, c'est pas vrai qu'on va se ramasser juste 4-2 bulles, puis les restos ont besoin d'air, les commerces ont besoin d'air, les hôtels ont besoin d'air, les organisateurs, la scène sportive, culturelle. Et c'est ça la pression sur le premier ministre. Tout ça arrive pendant que nous avons ce mouvement de protestation. D'abord, Québec, on a vu le bilan avec la promesse de revenir dans 2 semaines, mais dans 2 semaines, on risque quand même d'être pas mal plus avancé. Mais Ottawa, ça persiste. D'abord, il y a une injonction qui a été émise. Pas de klaxon pour 10 jours. Est-ce que ça va être respecté? Hâte de voir ça. Le maire et le chef de police d'Ottawa ont l'air complètement dépassés. C'est une gestion épouvantable depuis le début. Hier, on nous a dit qu'on aurait besoin de 2000 policiers. Débat d'urgence à Ottawa hier soir. M. Trudeau, qui a à peu près toujours le même discours, qui est de dire « manifestons ». Mais ce qu'on a devant nous, c'est un état de siège. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, ce mouvement fait des petits, là. La rumeur, c'est qu'il y aurait des convois de camionneurs également aux États-Unis, probablement autour du 1er mars. Faut-il rappeler que l'obligation vaccinale, ça vaut du côté américain, là, pour les gens qui font le transfrontalier. Alors, d'autres convois sont prévus en France, je vous le disais la semaine dernière. Là. Ça s'organise sur Facebook. C'est copier-coller avec ce qu'on vit ici. Alors, le modèle canadien est en train de s'implanter en Europe et possiblement aux États-Unis. Et j'ajoute à cela ce matin un sondage qui est publié dans le Journal de Montréal et qui indique assez clairement que l'appui pour les protestataires est en augmentation. Si je résume, c'est environ un tiers des gens qui sont d'accord avec les revendications, 2/3 qui sont contre. Et Jean-Marc Léger note, c'est important, qu'il faut regarder le tiers, parce que le tiers est en augmentation. Puis on retrouve des gens qui sont totalement en faveur, puis il n'y a pas vraiment de différence entre le Québec puis le Canada, là, totalement en faveur, 17 % assez en faveur, 15 % Puis dans les protestataires, bien là, vous avez différents groupes. Puis je vais essayer de démontrer un peu pourquoi ce mouvement-là attire une sympathie puis un certain soutien. C'est sûr que si tu ne vis pas à Ottawa, puis que tu n'es pas réveillé par des klaxons, puis que le centre-ville n'est pas congestionné, tu es moins touché. Puis tu peux comprendre la revendication. La revendication qui était la vaccination obligatoire, puis là, on a élargi ça à, évidemment, tout le mouvement des mesures sanitaires. Pourquoi? Parce qu'on a des exemples que des gens qui ont respecté toutes les règles depuis le début, avec raison. Puis on a fait du chemin depuis un an. On est passé d'une population qui commençait à se faire vacciner à une population qui a adhéré à la vaccination, qui est allée chercher ses 2 doses. La dose de rappel, on est parti en retard, mais quand même, on a rattrapé un peu de temps perdu. Là, les gens se disent, c'est assez, là. Puis je vous donne des exemples ce matin. Je ne sais plus combien de courriels je reçois de Canadiens, de Québécois qui se font virer de bord à la frontière parce qu'ils sont dans l'attente d'un résultat de test PCR qu'ils devaient avoir mais qu'ils n'ont pas eu parce qu'il y avait un délai. Je parle de la frontière terrestre. Les compagnies aériennes qui annulent parce que les réservations tombent, parce que c'est compliqué. Je parle beaucoup de Québec, là, mais parlons de la gestion de la frontière par le fédéral. Quand tu as le passeport vaccinal, quand tu as eu, mettons, tes 3 doses, quand tu as testé avant de partir, que tu n'as pas de symptômes, puis que tu t'en reviens, puis là, je vous parle de voyages plus longs, puis là, on a resserré la vis pour les courts voyages, des gens qui veulent aller aux États-Unis revenir, c'est compliqué. Savez-vous quoi? Ça écœure. Puis là, les gens ne comprennent pas trop pourquoi. Puis là, on ne parle pas d'antivax, on ne parle pas de Lucie Laurier, là. On parle de gens qui, depuis le début. Fait que ces gens-là, qui suivent les règles, se disent, mais là, ils vont-tu arrêter de nous écœurer? Puis est-ce que c'est encore nécessaire? On comprend la solidarité avec les gens du réseau de la santé et la fragilité du système. Mais on n'est pas convaincu que les mesures prises tiennent encore la route. C'était peut-être justifié il y a 1 mois, 2 mois, ça l'est peut-être un peu moins. Puis surtout, On veut un plan pour savoir quand est-ce que ça va finir. Je vous donne un autre exemple. Toujours un courriel reçu. Des gens, personnes âgées, qui sont confinées dans leur appartement. Et je vous dis, là, je vais l'appeler Elena, qui m'écrit. Je suis résidente d'une résidence pour personnes âgées à Candiac. J'ai 74 ans. Je suis autonome. Je vis seul, vacciné 3 fois en santé. Je n'ai droit à aucun visiteur. Elle n'a pas besoin d'aidant, là. Elle veut recevoir une amie, mettons, ou un ami. Les résidents qui ont besoin de proches pour fonctionner peuvent obtenir donc cette collaboration. Ça me fait plaisir. Mais les résidents ont droit à 4 proches aidants par jour. Je n'ai droit à aucun visiteur. Je suis pénalisé parce que je suis en forme et autonome. C'est quoi la différence entre un proche aidant puis un visiteur? Puis là, on peut bien jouer ces mots puis essayer de contourner le système. Elle dit, j'espère que vous porterez une attention particulière à cette injustice. Mais comprenez-vous pourquoi la minorité bruyante qui klaxonne puis qui est contre toute arrive à faire des gains auprès de ceux qui, depuis le début, respectent les règles, mais là, qui sont tannés. Puis on le voit ce matin avec, encore là, des groupes de pression qui disent « Il faut que ça avance, là. » Puis on veut savoir pour le mois de mars, puis le mois d'avril. On ne demande pas un calendrier béton barré 2 fois. On demande un calendrier pour prévoir. Je peux-tu prendre des réservations? Est-ce que je peux envoyer un signal à l'extérieur? Venez à Montréal, ça va être correct pour l'industrie touristique, puis on va être capable de vous accueillir. Tu sais, il y a une série de facteurs, là. Le beau temps va arriver, mars, avril, printemps, vers l'été. Tu sais, c'est ça qu'on s'attend d'un gouvernement. Pas une petite mesure en disant « calculer plus d'ailes de poulet pour la fin de semaine pour le Super Bowl ». Des mesures un peu plus, disons, charnières. Puis entre-temps, à Ottawa, là, débat d'urgence hier, là, M. Trudeau n'a qu'un discours. Et en tout cas, ça ne semble pas être demain la veille qu'on va déplacer des camions. Moi, je ne suis pas trucker, là. Mais ceux qui le sont m'expliquent que si tu penses que tu peux déplacer un poids lourd comme ça facilement, sans la collaboration du chauffeur, tu rêves en couleur. Ça va être long, puis ça va durer longtemps. Bon, parlons de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, et ses travaux de céramique. Alors, elle a parlé hier avec mon ami Patrick Lagacé. Voici sa version. Je résume rapidement là, ce qu'on a vu en fin de semaine. Elle met en ligne une story qui disparaît après un certain nombre d'heures, où elle est très fière avec son mari, donc, de montrer des travaux de rénovation d'un appartement, d'un logement qui lui appartient et qui est occupé par un locataire. Alors là, évidemment, tout de suite, il y a des gens qui ont dit « Hey, t'as pas le droit de faire ça. » Ça relève d'employés qui ont des cartes de compétences. Et donc, c'est illégal comme travaux. Voici sa version.
Vous imaginez bien que j'ai pas fait des travaux sans m'assurer que ça correspondait aux règles du code du bâtiment, puis aussi avec l'arrondissement, là. Donc, comme c'est des travaux en bas de 20 000 $ on a la possibilité, un locataire ou enfin un propriétaire peut faire des rénovations. Et puis, je dois vous dire, moi, somme toute, je suis fière de bien entretenir les logements là pour mes locataires.
Quand je vous ai dit tantôt qu'elle devrait venir répondre à plus de questions, parce que hier, ça tombe, on n'a pas tous les détails, on va essayer de remettre ça en perspective, parce que, puis après ça, je vous dirai ce que je pense du fond. Mais là, c'est un vieux truc, ça, de prendre un paquet de règlements, les mettre dans une tuque, brasser ça, puis prendre celui qui fait notre affaire. La question, c'est pas de savoir est-ce que ce sont des travaux supérieurs à 20 000. La question, c'est pas de savoir est-ce que l'arrondissement permet ça ou un organisme comme la régie du bâtiment, puis t'as le droit, là. C'est pas ça la question. La question, c'est que ces travaux-là, quand c'est fait dans un appartement qui n'est pas le tien, qui c'est pas ta maison, ça devient des travaux régis par la Commission de la construction du Québec. Si tu fais une rénovation, pas une réparation, c'est pas que tu répares la porte. Puis là, on va appeler un chat, ce que Mme Plante et son mari ont fait, ce sont des rénovations. Tant mieux, elle entretient bien ses logements. Mais, pas certain qu'elle puisse faire ça. Puis là, la Commission de la construction du Québec ne parlera pas du cas spécifique tantôt, va parler en général. Et vous le savez comme moi. Moi, j'en connais aussi personnellement des gens qui ont fait des travaux dans un logement de leur locataire, dans un local, petit salon de coiffeur, puis qui se sont fait empissoter parce qu'il était en train de peinturer. C'était pas des travaux supérieurs à 20 000, c'était pas illégal. La question, c'est pas ça, c'est pas le montant, puis c'est pas le règlement de l'arrondissement. La question, c'est est-ce que tu passes à côté des travaux? Puis l'argument là-dessus, c'est de dire, ouais, mais il faut que ça soit bien fait parce que c'est le locataire qui va payer pour. Si tu fais des travaux d'électricité, si ta céramique est mal posée, puis bon. On peut débattre de ça, puis je trouve que c'est peut-être, puis avec Pierre-Yves, on va en parler tantôt, parce que ça ramène tout le débat. Est-ce qu'on pousse pas ça un peu fort? Est-ce qu'on devrait pas permettre à des propriétaires de faire un certain nombre de travaux dans les logements de leurs locataires? Puis là, je vous dis pas que Mme Plante est de mauvaise foi, là. Moi, je comprends. Elle a un logement, plusieurs logements, puis elle veut les entretenir, puis elle dit, c'est pas la fin du monde, on met de la céramique. Tous les gens qui se sont fait écorcher se disent tous la même chose. Ils veulent pas partir des chantiers clandestins, ils veulent pas bâtir des immeubles en cachette, ils veulent rénover un appart, un logement. Puis moi, je pense que peut-être qu'elle savait pas, elle y a pas pensé. Mais là, sortez pas de la cassette du montant des travaux, là. Ça n'a rien à voir. Puis c'est pas une réparation, c'est une réno. Mais je sais que les gens de l'industrie de la construction, ils tiennent à ça, puis ils nous sortent des arguments de sécurité. Puis là, la personne qui nous a écrit, entre autres, là-dessus, concernant, entre autres, dans une salle de bain, le mur de la douche, qu'il y a des choses à respecter, puis que ça prend une formation, puis ça prend des cartes de compétences. Fait que là, le monsieur qui a envoyé le courriel hier, peux-tu vous dire que ça s'est promené? Alors voilà pour le dossier Valérie Plante et logement. Rapidement, dans les autres nouvelles, la presse nous dit ce matin que le REM dans l'Est est en train de tomber. L'avis de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ça c'est l'organisme qui est supposé chapeauter l'ensemble des besoins, puis il trouve que c'est un mauvais projet, en tout cas tel que présenté, que ça vient nuire aux structures de transport en commun déjà existantes, pensons au métro, puis que l'idée de partir de l'Est vers le centre-ville, ça répond pas à un vrai besoin de beaucoup de monde. Puis que c'est mettre beaucoup d'argent dans un projet qui est plutôt en compétition, qui va gruger le métro, les autobus. Alors, on verra quelle sera la suite. Est-ce qu'on va ajuster tout ça? Il y a également, depuis l'affaire des entraîneurs de basketball à l'école Saint-Laurent, là, il y a beaucoup de gens, on le disait la semaine dernière, là, qu'au-delà des cas d'agression qui font l'objet d'accusations, on nous parle d'un climat toxique, d'un climat pourri. Et là, il y a le ministère de l'Éducation qui a décidé de se pencher là-dessus. Il y a une firme externe également qui a été nommée. Et un des noms qui revient beaucoup, c'est Daniel Lacasse, là, qui a été peut-être le coach le plus en vedette dans toute cette histoire-là. Alors, on verra le volet criminel, puis aussi les enquêtes internes. Et puis également, ce matin, je vais vous parler de chiffres sur les cyberprédateurs. Puis l'idée, c'est pas de faire peur aux parents, là. L'idée, c'est de dire aux gens qui nous écoutent d'être prudents parce que la pandémie a fait augmenter de 106 % le nombre de signalements au Canada de cyberprédateurs, donc des gens qui tentent de faire des leurres, des gens qui, avec des fausses identités, vont amener jeunes garçons, jeunes filles à envoyer des photos de nus. Il y a du chantage, il y a de la manipulation, puis c'est plus facile que vous pensez. Et comme les jeunes passent beaucoup de temps devant leurs écrans, ben ils deviennent des cibles pour ces gens-là. Puis ce qui est frappant, c'est que une majorité de ces plaintes concernent des jeunes de moins de 13 ans. 7, 8, 9, 10, 11. Beaucoup d'enfants qui sont ciblés par des prédateurs. Et je vous dirais l'autre chose, c'est que je regardais les chiffres hier sur le nombre d'enfants au Québec, les prescriptions d'antidépresseurs pour des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui font de l'anxiété. Envie de finir en vous disant ce matin, il faut s'occuper de nos enfants collectivement, là, puis dans chaque famille, parce que c'est dur pour les enfants, peut-être moins dur qu'on pense pour certains, mais il y en a d'autres qui sont plus vulnérables, puis il y a des gens au bout de l'écran là, qui attendent juste ça pour leur mettre la patte dessus.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
13 heures cet après-midi, point de presse à Québec avec le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé et le directeur national de Santé publique. De ce qu'on comprend à travers les rumeurs, c'est qu'on devrait annoncer pour le week-end d'autres assouplissements permettant ainsi aux gens d'être plus nombreux. On parle de rassemblement de 10 personnes intérieures, 3 bulles, même chose pour ce qui est des restaurants. Puis également, reprise des activités, des matchs au début de la semaine prochaine. Il y a déjà l'ouverture des gyms qui est annoncée. Puis il y aurait une espèce de calendrier pour prévoir un peu, pas tout, mais donner une orientation pour les prochaines semaines. Regardons ce qui se passe à Montréal avec Dr Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal. Dr Drouin, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Ma première question est très simple. C'est quoi le portrait de Montréal ce matin? Disons, depuis la fin décembre jusqu'à aujourd'hui, ça a évolué comment?
Bien évidemment, là, vous le savez qu'on suit certains indicateurs plus fiables là, avec les changements dans les indications de dépistage, mais somme toute, ça va quand même la situation s'améliore progressivement. Depuis 3 semaines, là, je dirais les indicateurs forts qui sont évidemment là les nouvelles hospitalisations, entrées aux soins intensifs, quand on regarde les éclosions qu'on suit de près en milieu de bien-être, itinérance, tout ça est à la baisse. Une baisse qui n'est pas rapide, mais somme toute qui se maintient, étant qu'on suit aussi les taux de positivité, même si on le sait là, évidemment que ça reflète le reflet ça ne reflète pas exactement ce qui se passe dans la communauté, mais dans certains groupes comme les travailleurs de la santé, c'est un bon proxy ou une belle estimation là, de ce qui se passe. On voit aussi une tendance à la baisse qui se maintient. Et on a ajouté quelques indicateurs avec l'Agence de santé publique du Canada sur les eaux usées qui nous démontrent aussi que depuis la fin janvier, on est dans une baisse là, de la présence là, du variant. Donc, c'est quand même encourageant.
OK. C'est vrai que comme on teste moins, ça demeure un indicateur un peu plus difficile là, à bien cerner. Mais maintenant, dans les écoles de Montréal, beaucoup de cas, beaucoup de classes fermées, qu'est-ce qui se passe?
Maintenant, on est à 3 semaines d'ouverture. Nous, on juge que la situation est quand même, somme toute, sous contrôle. Notre objectif, là, avec le changement des façons de faire, c'est de garder le plus les enfants à l'école. On a actuellement, là, à la fin de la semaine dernière, on avait 45 classes fermées. Donc, faut comprendre qu'on a plus de 600 écoles, avec chaque école plus qu'une dizaine de classes, là, primaire, secondaire. Donc, c'est très peu de fermetures par rapport à ce qu'on avait à l'automne. Donc, évidemment, les fermetures se font quand c'est des plus grosses éclosions. Sur le nombre de cas, on a une légère tendance à la hausse, mais c'est normal. Souvent, ça se stabilise après 4-5 semaines d'ouverture, puis l'accès aux tests rapides augmente. Donc, on s'attendait de toute manière à avoir plus de tests rapides positifs pour les utilisateurs. Mais ça, le message à la population, c'est vraiment dès qu'un enfant a des symptômes, on le teste et on le retire le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on évite les plus grosses éclosions. Et évidemment, on travaille avec les écoles sur l'aération, les masques et tout. Mais la situation est sous contrôle.
Quand vous regardez les projections qui sont faites aussi, je pense à l'Institut national de santé publique, là, les experts qui analysent les prochaines semaines et qui tentent de voir un peu la tendance, quand vous regardez tout ça, là, puis je comprends que ça va peut-être pas à la vitesse que les gens voudraient, mais disons qu'on est vers une bonne voie, on est dans une bonne direction.
Et c'est sûr que oui, tout à fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a toujours le nouveau variant de l'EBA.2 là, qu'on va avoir. On met en place des systèmes de vigie plus rehaussés. En même temps, il est plus contagieux, mais il ne semble pas ce qu'on voit là, plus sévère en termes de risque d'hospitalisation et de décès. On a quand même une immunité acquise par Omicron, donc c'est assez difficile actuellement là, de prévoir s'il arrive et à la vitesse qu'il va arriver. C'est quoi l'impact là, sur les formes sévères de la maladie. Mais je pense que l'approche actuelle là, de déconfiner progressivement, d'avoir des interventions qui sont proportionnées face au risque et à la gestion du risque actuel, je pense que c'est la bonne approche dans laquelle on est, mais en rehaussant évidemment nos systèmes de vigie là, pour être sûr que si on a un nouveau variant qui peut avoir un effet sur la capacité hospitalière, bien, qu'on soit capable de réajuster. Là.
vous l'avez dit tantôt, pour ce qui est de l'école, l'objectif, c'était de maintenir les écoles ouvertes le plus possible puis que les enfants soient en classe. Tu sais, je regardais la semaine dernière tout le débat sur le sport. Est-ce qu'on met le masque, pas de masque? Quand est-ce qu'on va jouer des matchs? La possibilité d'être, de se retrouver un peu plus nombreux avec le nombre de gens vaccinés. Il y a comme un besoin là de bouger. Puis là, je parle des adultes puis des enfants, là, de bouger puis de socialiser aussi. Ça pèse dans, comme on dit, l'évaluation de la situation.
Exactement. Je pense qu'on a la population a besoin là, de reconnecter là, avec évidemment les activités qui leur permettent là, d'avoir une meilleure santé mentale et de sentir une certaine normalité. Le message, c'est vraiment, bien évidemment, de la troisième dose, on ne dira jamais trop. Il faut aller la chercher. Face au BA.2, clairement, là, c'est une protection supplémentaire pour les formes sévères de la maladie, puis la littérature le démontre bien. Puis, évidemment, bien, si de plus en plus on s'en va vers une auto-gestion des milliers de personnes. Donc, si vous avez des symptômes, un test rapide, vous vous isolez, vous protégez les gens plus vulnérables autour de vous, vous portez le masque, vous le portez, on demande de le porter évidemment plus que le 5 jours d'isolement. Sachant qu'on peut être contagieux jusqu'à 10 jours. Mais je pense que c'est ces comportements-là qu'on va demander, dans le fond, à l'échelle populationnelle, d'appliquer pour réduire, évidemment, les risques là, d'éclosion dans des milieux. Puis on va rehausser, évidemment, là, la vigilance dans les milieux où on a des populations vulnérables. Ce qu'on souhaite surtout pas, c'est de faire le yo-yo.
Non, de ne pas commencer à ouvrir, fermer, là, c'est pas, personne veut ça. Je vais vous parler de la vaccination. La dernière fois dont on a parlé de ça, vous me disiez, ben, on sait qu'il y a des secteurs à Montréal, il y a des quartiers peut-être où le message passe moins bien. Pas des anti-vax, mais des gens qui, pour toutes sortes de raisons religieuses, culturelles ou autres, linguistiques, captent pas le message. Le ministre Carman a annoncé le déploiement de centres de vaccination mobiles. Moi, j'entends toutes sortes de choses. T'as beau ouvrir un centre de vaccination, mais s'il n'y a pas une opération de rabattage au préalable avec des leaders de communauté, la Croix-Rouge qui cogne aux portes en disant « Demain, ils sont là, venez vous faire vacciner », ça ne marchera pas. Est-ce que ça marche actuellement? Est-ce que vous sentez que les non-vaccinés dans certains arrondissements de Montréal se présentent?
Mais c'est sûr que l'opération pour aller chercher des premières doses, c'est un effort monumental. On a quand même actuellement la première dose chez les 12 ans et plus de Montréal, c'est 96% de la population qui l'a eu. Donc, c'est très peu de gens. Donc, les efforts qui sont faits actuellement sont faits autant pour les premières, deuxième, troisième doses. On ressort un peu l'arsenal promotionnel qu'on a fait pendant tout l'été. Évidemment, il y a toute la stratégie des 5-11 ans. On est dans les écoles. Il y a des appels qui sont faits à certains parents. Il y a des webinaires traduits dans différentes langues où on répond aux questions des parents. Puis ça fonctionne quand même assez bien. On va chercher là quand même aussi des premières doses chez les 5-11 ans. Et on complète les deuxièmes doses pour les enfants qui en sont rendus à cette étape-là. Et les cliniques éphémères, évidemment, vous avez raison, là, on ressort évidemment les liens avec les leaders des communautés. On a du porte-à-porte qui se fait. Évidemment, on avait fait les HLM avant Noël, mais dans certains où les couvertures sont moins bonnes, on retourne. Et on a une stratégie beaucoup ciblée sur les aînés. Au-delà des cliniques éphémères, pour nos aînés, on est l'hiver, et c'est toute la question du transport, de l'accompagnement, c'est une barrière supplémentaire. Actuellement, chez les 70 ans et plus, on a 81% de couverture. On le savait, on a beaucoup plus, on a au-dessus de 95% de nos aînés qui avaient eu leurs deux doses de vaccin, là, même 98%. Donc, on a quand même là, des dizaines de milliers d'aînés qu'on le sait qu'il y a une ouverture à la vaccination, mais il y a un frein soit lié à l'hiver, soit lié à l'accompagnement ou à l'hésitation. Donc, c'est beaucoup des stratégies à ce niveau-là okay. qu'on est en train de faire avec le milieu communautaire.
Est-ce que c'est vrai que vous étiez contre le couvre-feu?
Non, nous, qu'on a quand même le message qu'on a envoyé avant que la décision soit prise par le gouvernement, c'était d'examiner, de faire une analyse éthique et de regarder par rapport à d'autres mesures dans un contexte montréalais, entre autres avec beaucoup de populations vulnérables, si le couvre-feu était nécessaire par rapport à d'autres mesures alternatives dont l'efficacité était bien démontrée pour diminuer les contacts. Donc, on a plutôt recommandé de mener cette analyse-là avant de l'imposer.
OK, mais avec le recul, pensez-vous que le couvre-feu était utile dans les circonstances, là, le fameux calcul des avantages puis des inconvénients. Là, vous parlez d'itinérants puis de gens qui sont vulnérables. C'est-tu une bonne affaire, le couvre-feu?
Bien, malheureusement, on n'a pas fait d'évaluation ni la première fois qu'on l'a implanté, ni cette fois-ci. Donc, c'est sûr qu'il y a une limite dans l'arsenal des mesures mises en place pour réduire les contacts. Ça y contribue certainement. Est-ce que c'est cette mesure-là qui fait une différence? Moi, j'ai pas de données qui me permettent de juger de cela. Mais c'est ça, c'est toujours de regarder aussi les impacts collatéraux chez les populations plus vulnérables. Puis c'est un petit peu ce petit drapeau-là qu'on levait parce qu'on en a plus à Montréal, puis on voulait que le gouvernement soit sensible à tout ça.
Êtes-vous intéressé par le poste de directrice nationale de la santé publique? Docteur Boileau, c'est l'intérim. Vous, est-ce que la job temps plein vous intéresse?
Ben, je suis bien contente de répondre à ça parce qu'on a fait bien du ménage. Non, c'est pas dans mes plans à moi. Pour moi, mon engagement est réellement là, à Montréal, à la fois pour terminer la pandémie, mais aussi pour le rétablissement des communautés, puis pour faire en sorte que notre santé publique de notre grande métropole soit encore plus prête là, pour faire face à des futures urgences. Donc, tout ce qui touche les aléas climatiques. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout dans mes plans.
Merci, Dr. Drouin. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Dr. Mylène Drouin est la directrice régionale de la santé publique de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, on va parler de Mme Plante qui a publié en fin de semaine l'extrait du story qu'on appelle là où elle fait des travaux de rénovation. Alors, c'est, comme on dit, stripper une salle de bain puis refaire la céramique. Alors, depuis hier, évidemment, les messages se promènent. On a reçu des gens du monde de la construction qui nous ont dit « Tu peux pas faire ça, c'est un logement locatif. Ça a beau t'appartenir, mais c'est le locataire qui vit à l'intérieur. » Je fais entendre Valérie Plante. Après ça, on va parler avec la Commission de la construction du Québec.
Vous imaginez bien que j'ai pas fait des travaux sans m'assurer que ça correspondait aux règles du Code du bâtiment, puis aussi avec l'arrondissement. Là. Donc, comme c'est des travaux en bas de 20 000 $, on a la possibilité, un locataire ou enfin un propriétaire peut faire des rénovations. Et puis, je dois vous dire, moi, somme toute, je suis fière de bien entretenir les logements là, pour mes locataires.
Madame Plante a donné cette entrevue hier à mon collègue Patrick Lagacé. Mélanie Malenfant est la porte-parole de la Commission de la construction du Québec. Madame Malenfant, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
On parlera pas du dossier de Valérie Plante, on va parler en général. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire comme propriétaire d'immeubles locatifs dans les logements de mes locataires?
Bien, c'est pas simple à comprendre, c'est pas simple à expliquer. Là, fait que je vais l'admettre d'emblée, c'est des règlements qui sont complexes. Ce qu'il faut comprendre de d'abord, c'est que tous les travaux de construction sont assujettis à la loi R20, sauf quelques exceptions, puis les exceptions sont très circonscrites dans la loi. Dans votre maison personnelle où vous habitez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans un appartement que vous offrez en location, oui, vous pouvez participer. M. McSween l'a dit plus tôt dans sa chronique. Vous pouvez participer dans la mesure où vous faites des travaux d'entretien et de réparation, donc vraiment des travaux de maintenance. Et ces travaux de maintenance-là, l'interprétation est très restrictive par les tribunaux parce que l'intention du législateur, c'est vraiment de protéger les occupants actuels et futurs. Donc, on s'assure de rester dans un niveau de maintenance. Ça, c'est permis pour un propriétaire de le faire lui-même. Au-delà de ça, il doit effectivement faire affaire avec des professionnels.
OK. Pour que ce soit encore plus clair, qu'on se comprenne, je peux réparer une porte, je peux faire ce genre de travaux mineurs, mais quand je strippe une pièce, là, on est dans la rénovation.
Mais la difficulté, c'est effectivement de qualifier est-ce que les travaux sont effectivement de l'entretien de réparation ou est-ce qu'on est au-delà de ça. Puis généralement, et c'est ça la difficulté pour des gens qui sont pas des gens du secteur de la construction, c'est de qualifier eux-mêmes leurs travaux. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours aux gens de se faire accompagner. Mais effectivement, changer un comptoir, sabler un plancher, peinturer un mur, généralement, c'est de l'entretien-réparation. Okay. Au-delà de ça, on est dans de la rénovation.
OK. Et ça n'a rien à voir avec le montant, là, que ça coûte 10 000, 15 000, 25 000, ça n'a rien à voir, là. Le montant n'est pas important.
Du point de vue de la commission de la construction, le montant des travaux n'a rien à voir. C'est vraiment de qualifier les travaux. la pièce que vous rénovez, c'était quoi avant? Comment vous l'avez transformée? Qu'est-ce que vous faites dans les travaux? Est-ce que vous faites seulement un acte d'entretien préventif ou vous faites un travail vraiment de réparation de quelque chose qui est brisé? Ça, généralement, c'est exclu de la loi. C'est vraiment juste de l'entretien.
C'est parce que c'est l'équilibre, hein? C'est-à-dire qu'on veut que les logements soient entretenus, qu'il y ait de la rénovation, puis qu'en même temps, ça soit des travaux de qualité. On veut pas que n'importe qui se lance dans l'installation, je sais pas moi, en fait, de refaire l'électricité, par exemple. Puis en même temps, ben il y a beaucoup, puis Pierre-Yves le disait tantôt, de gens qui ont pas les moyens, qui disent, je vais le faire moi-même, je suis capable de faire de la céramique, toujours bien pas à la fin du monde. Comment on peut, là, je comprends que c'est pas votre job à vous, là, mais de trouver cet équilibre entre la qualité puis en même temps la capacité de payer des propriétaires?
Mais vous dites que c'est pas notre job à nous. Nous, la position qu'on prend, parce qu'on a tiré des leçons des situations qu'on a eues dans le passé, nous, la position qu'on prend quand on est face à des problèmes comme ceux-là, quand on rencontre des propriétaires de duplex qui rénovent des appartements au-dessus de chez eux, par exemple, là, l'exemple là, typique, nous, on se met en position d'accompagner les gens pour les aider à régulariser leur situation parce que on est conscient de la réalité de l'industrie présentement. Alors, vous avez raison, le volume d'activité il est très élevé. Les entrepreneurs, ils sont difficiles à trouver. Donc, nos inspecteurs, on les forme puis on les prépare à aller accompagner ces personnes-là à bien expliquer la loi, à bien comprendre qu'est-ce qui est permis par rapport à ce qui ne l'est pas, puis à les diriger vers les bons endroits pour qu'ils puissent régulariser leurs travaux, s'assurer de respecter la loi. Cela étant dit, je veux aussi spécifier quelque chose qui est important. On a 400 personnes à la commission de la construction qui sont affectées à des travaux de vérification en chantier. Nous, on priorise nos interventions selon le risque. Puis là où on a de la valeur, c'est vraiment de détecter le travail au noir puis d'aller casser des stratagèmes de concurrence déloyale dans le volume. Fait qu'on veut cibler des contrevenants chroniques. On veut cibler vraiment des, comme je dis, des stratagèmes.
Mais quand vous avez une plainte, vous êtes obligé de l'enquêter.
Quand on a des plaintes, généralement, on les vérifie, effectivement. Mais c'est pas nécessairement un secteur qu'on va cibler d'emblée parce qu'on n'a pas beaucoup de volume. Mais on est quand même là pour accompagner les gens. Puis, bon, il y en a des propriétaires de duplex qui vont faire des stratagèmes à répétition puis qui vont répéter leurs stratagèmes d'édifice en édifice. Généralement, on est capable de les cibler, on est capable de les suivre. Là. Mais c'est quand même pas un secteur, je vous dirais, où on a des interventions très volumineuses.
OK. Merci, Mme Malenfant.
Je vous remercie. Bonne journée.
Bonne journée. Mélanie Malenfant, la porte-parole de la Commission de la construction du Québec. OK, on va résumer. D'abord, quand vous êtes propriétaire de logement locatif, si ce n'est pas une réparation, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, c'est un. Ça n'a rien à voir avec combien ça coûte. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit conforme, par exemple, au règlement de l'arrondissement. C'est ce que Mme Plante disait. Ça n'a rien à voir. Puis, je la comprends, là. Elle est propriétaire, puis elle dit, tiens, on va faire ça. Puis on va changer la céramique. Pierre-Yves, écoutez sa chronique de tantôt, là, c'est le parfait résumé. On a affaire à Mme Plante de venir répondre aux questions. Je sais qu'elle a répondu à Patrick hier, mais mettons qu'il manquait peut-être certains éléments. Et ils nous ont dit non, ils ont le droit. La seule affaire que j'aime pas, là, ça gagne de com. Vous écœurez pas nos chroniqueurs parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Tu sais, de spinner des messages à la conjointe de Pierre-Yves. Boy, ça, c'est petit. Ça ne nous affecte pas beaucoup. Mais mettons que, tu sais, chroniqueur a le droit de dire ce qu'il pense. Puis il pense que Mme Plante était dans l'erreur ou dans l'illégalité, comme beaucoup, 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 beaucoup de monde. On ne porte pas un jugement sur ce qu'elle a fait. On constate. Puis quand t'es mairesse d'une ville, personnalité publique, bien, c'est sûr que ça peut être dérangeant. Puis il y a des gens, puis des travailleurs de la construction qui nous écrivent ce matin, qui disent « Il n'y a pas d'affaire à faire ça, c'est ma job de faire ça. » Puis bon. Moi, j'offre simplement une tribune pour qu'on échange là-dessus. Je pense que ce qu'elle nous donne comme règlement, c'est comme tu prends plusieurs règlements, là, puis tu sors ceux qui font ton affaire. C'est le 20 000, puis ça prend pas la régie du bâtiment. Ben non, ça prend des travailleurs qui ont les cartes de compétences. That's it. Ben, qu'appelez pas Pierre-Yves Sablon. Perte de temps, ça, c'est petit. Ça fait junior aussi un petit peu.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans,
Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, il a fait froid au mois de janvier, et même la semaine dernière, on le sait, et il y a eu, peut-être pas un record, mais il y a eu beaucoup de conduites d'eau qui ont gelé dans plusieurs arrondissements de Montréal. Écoutez, on a reçu d'abord pas mal de correspondances, puis j'ajoute à ça l'échange qu'on a eu avec la Ville de Montréal, qui invite les gens à faire le 3-1, mais écoutez, la liste est impressionnante. Tu dis, ben, OK, une fois qu'on constate que les tuyaux sont gelés, qu'est-ce qu'on fait? Je vous présente Odette Plante, qui habite Outremont. Elle est victime, donc, de ces conduites gelées, problème d'aqueduc. Et après ça, on ira parler avec le maire de l'arrondissement. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, depuis quand les tuyaux sont gelés chez vous?
Ils sont gelés depuis mercredi la semaine dernière, le 2 février.
Donc, ça va faire une semaine demain là, que c'est gelé. C'est quoi les
démarches? Exactement. Je suis en mon 7e jour sans eau.
OK. Quelles sont les démarches que vous avez faites?
Alors, dès qu'on constate, on se lève le matin qu'on n'a pas d'eau, on est consterné, on compose le 3-1-1. La première phrase qui est dite, c'est « Votre compte de taxe est dans la poste ». Et par la suite, on prend en note de votre demande. On vous en donne un numéro de billet de service, si vous voulez. Alors, demandez quand ça va se régler. Ah, c'est pas madame. Alors là, on attend. À 11 heures le matin, un homme frappe à la porte, quelqu'un de la ville qui vient me dire que on va envoyer un compresseur pour dégeler la tuyauterie. Il faut rester à la maison parce que c'est important qu'on soit là quand ils viennent. Alors moi, je reste à la maison tout le mercredi. Le jeudi, il n'y a pas de nouvelles. Je rappelle le 3-1-1 pour me faire dire qu'il y a des personnes à Montréal qui sont sans eau depuis une semaine. Là, je suis estomaquée d'apprendre ça. N'oubliez pas là, que pas d'eau là pour les gens qui nous entendent. Là, c'est pas juste de l'eau pour boire. On n'a pas de toilette là. Hein, on n'a pas de toilettes. Chercher les toilettes publiques pour aller, là. Bon, alors là, c'est vraiment pas drôle, là. Alors là, j'attends. Finalement, le jeudi, j'ai téléphoné à la conseillère d'arrondissement, qui était très gentille, qui m'a référé, qui, après mon appel à l'arrondissement d'Outremont, après mon appel, il y a quelqu'un du travaux publics qui m'a appelé, étonné que je n'ai pas appelé un plombier, là, vraiment. Un plombier.
OK, mais je vous pose une question très simple, Mme Plante. Vous êtes certaine que c'est du côté de la ville et non pas dans votre...
Monsieur, oui, actuellement, il y a une pépine dehors qui est en train de creuser la rue refaite en 2019 parce que l'eau est gelée dans la rue. Alors, ce qui est inquiétant, là, d'abord, il y a de ne pas avoir d'eau. Deux, on ne sait jamais quand ça va être réglé. Trois, ben, ce qui est inquiétant, c'est que c'est sûr qu'à Montréal, il y a des infrastructures vétustes, mais chez nous, c'est neuf. Ils ont changé pendant des mois, ils ont tout creusé, ils ont tout changé. C'est en cuivre. Alors là, on est quatre sur la rue. Alors, c'est sûr qu'il fait froid, mais le problème, c'est le froid, c'est un facteur déclenchant.
Écoutez, je veux pas
la
mettre...
La cause, c'est la tuyauterie qui est mal isolée, mais pas tout.
Non, mais attendez, Mme Plante, je veux juste ajouter un peu à votre argumentaire parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés de d'autres arrondissements puis qui nous expliquent que certains travaux, puis je ne mettrai pas une règle générale là, parce que je n'ai pas la preuve de ça, mais qu'on n'a pas creusé assez profond pour installer certains tuyaux. Alors, puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'image, là, c'est pas assez creux, fait que ça gèle plus facilement.
En fait, il y a deux affaires, là, ce qu'ils nous ont dit qu'ils ont ils creusent à un certain niveau, mais ce que un employé de la ville m'a dit hier, c'est que les tuyaux de cuivre, contrairement aux tuyaux de plomb, c'est beaucoup moins souple. Alors, c'est installé autrement. C'est sûr que c'est mal employé. Ça, c'est certain. Mais là, ce qui est inquiétant, là, c'est qu'ils refont les infrastructures partout, là. Seulement sur ma rue, là, au premier hiver froid, quatre personnes. Hier, on m'a dit on était 23. Mais là, c'est que moi, je me battais avec la ville d'Outremont, mais erreur. La ville d'Outremont n'a aucun contrôle sur l'eau et l'aqueduc.
C'est l'arrondissement Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, le maire d'Outremont, les conseillers, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus.
Je vais aller parler avec le maire là, dans deux minutes. Mais entre-temps, est-ce que je comprends que l'arrondissement vous livre de l'eau en bouteille?
Oui, on m'a livré de l'eau en bouteille. Un matin, j'ai pris des blocs de glace parce qu'ils ne sonnent pas. Alors, ils me livrent de l'eau en bouteille, mais c'est vraiment pas assez, là. Moi, je m'en vais avec ma chaudière chez ma voisine à côté là, pour chercher de l'eau. Moi, j'ai 71 ans. Là. Je suis née à Montréal. J'ai jamais pensé que je vivrais ça un jour dans ma vie. J'ai même dégelé de la neige. Alors, hier, ils sont venus, mais ils n'ont pas été capables de dégeler. C'était pas accessible par l'intérieur. Alors, il faut qu'ils creusent la rue. Ils sont en train de faire ça en bas. Ils sont en train de creuser dans la rue, là. Mais c'est pas tout, là. Ils me font signer un contrat qu'ils ont le droit de démolir, de briser, qu'ils sont pas responsables. Et de deux, il faut que je laisse l'eau couler jusqu'au mois d'avril pour éviter un autre gel. Imaginez-vous, je vais-tu passer les hivers à faire couler de l'eau pour pas que ça gèle? Comme ma grand-mère dans sa maison de rang en 1950.
On est rendu aux filles de Caleb, Mme Plante.
Pardon?
On est rendu aux filles de Caleb.
On est rendu aux filles de Caleb à Montréal, à Outremont, où on paie très cher de taxes.
Je vais aller parler avec votre maire d'arrondissement. Merci de m'avoir écrit et d'avoir été avec nous ce matin.
Merci donc, de m'avoir écouté, monsieur.
Ça fait plaisir. Laurent Desbois est le maire de l'arrondissement. Monsieur Desbois, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Est-ce que c'est vrai d'abord que c'est pas dans la cour de l'arrondissement que ça relève de l'autre arrondissement?
Effectivement, Outremont, c'est un très petit arrondissement, donc on n'a pas les. On a une entente avec Côte-des-Neiges qui date d'avant la fusion avec la ville de Montréal, qui date de très longtemps. Côte-des-Neiges a une population beaucoup plus grande, un bassin, et donc ils ont des équipes spécialisées. Qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine, pour s'occuper de problèmes d'aqueduc, effectivement. Donc,
Vous en avez combien de résidences dont les conduites d'eau sont gelées sur votre territoire?
On a 10 résidences dont les conduites sont gelées. Et effectivement, je déplore la situation de Mme Plante. Effectivement, c'est épouvantable. En 2021, qu'on n'ait pas accès à l'eau et que les aqueducs sont gelés. On a 10 maisons à Outremont. Il y en a 4 sur la rue Champagneur. Mais les autres sont répartis un peu partout sur l'arrondissement. Côte-des-Neiges a reçu 23 demandes qui incluent l'arrondissement d'Outremont. 23 demandes de signalement, si on veut, de tuyaux gelés. Et donc, sur les 23, il y en a 10 qui sont à Outremont.
Mais est-ce que c'est normal que ce soit si long que ça? Entre le moment où j'appelle le mercredi, puis demain, ça va faire une semaine, là.
Oui. C'est effectivement pas normal que ça prenne autant de temps. C'est une situation particulière cette année parce que, en fait, il n'y a pas eu un froid aussi intense depuis 2004. Là, je pense que c'est l'hiver, le mois de janvier, le plus froid.
OK, mais M. Desbois, se peut-il que ce soit pas juste le froid? Se peut-il aussi, ce que Mme disait tantôt, puisque des cols bleus nous disent que, disons, que des travaux qui ont été faits font en sorte que les tuyaux deviennent plus vulnérables au froid?
Moi, je vais demander une investigation là-dessus, effectivement, pour voir si... la façon que les tuyaux ont été mis, est-ce que ça cause des gels de tuyaux plus facilement?
Parce qu'il y a des gens de Westmount qui me disent ce matin qu'eux aussi se font demander de laisser couler l'eau quand il fait froid.
Oui, et c'est un truc effectivement de fille de Caleb, comme vous avez dit, et c'est un peu bizarre, je suis 100% d'accord avec vous. Mais cette année, en fait, c'est pas que les tuyaux, en fait, qui peut causer des problèmes. Il y a le type de sol, il y a la couverture de neige, il y a la profondeur des tuyaux. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent affecter, peut causer un gel. Ça, c'est quelque chose que je vais investiguer, que je vais demander à mes équipes là, de regarder exactement. Et pourquoi sur une rue, il y a eu plus de cas de gel que sur d'autres. Là, donc, ça, je vais avoir des réponses là-dessus.
Oui, parce que disons que c'est assez préoccupant tout ça, là.
Oui, tout à fait. C'est absolument pas normal que ça se produise. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2015, où il y a eu un froid. Il y a eu à Montréal 1000 1000 entrées de services qui ont été gelées en 2015. Cette année, il y en a, la Ville de Montréal nous a dit, en date du 4 février, il y a 100 maisons qui ont été gelées, dont les tuyaux ont été gelés à travers l'île de Montréal.
Donc, OK. Merci, M. Hey. Desbrois. Bonne journée. Le maire d'Outremont, Laurent Desbrois. Là, j'ai envie de faire une farce plate. La fais-tu? Elle est plate, mais on me fait railler, je le sais, là. Vous êtes prévenus de changer de poste, fermer tout ça si ça vous tente pas. On va envoyer Mme Plante, son mari, checker les tuyaux. OK, est facile, elle est facile.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.